Le FTA, le Festival Transamérique, s'ouvre le 22 mai, ça s'en vient très bientôt, et ce jusqu'au 5 juin. Et j'ai le plaisir d'en parler avec Martine Denvald, co-directrice générale et co-directrice artistique du Festival Transamérique. Bonjour Martine.
Bonjour Hélène, merci de m'accueillir à Canal M ce matin.
Ça nous fait bien plaisir. Alors Martine, si je vous demandais de décrire l'essence du festival, l'ADN du Festival Transamérique.
Le Festival Transamérique, c'est vraiment un festival dédié à la danse et au théâtre dans ses formes les plus contemporaines. Et le contemporain, pour Jessie Mill, qui signe la programmation avec moi et moi, le contemporain a un côté esthétique, artistique, innovateur, exceptionnel, évidemment. Mais c'est aussi une façon de se poser les questions pertinentes au niveau plus géopolitique, sociopolitique dans le monde aujourd'hui.
Diriez-vous que c'est un festival qui s'adresse à des habitués du théâtre ou de la danse contemporaine?
C'est vrai que nous avons un public extrêmement loyal, fidèle, qui nous accompagne au fil des années. On le revoit d'année en année et c'est très, très beau. Mais c'est un festival qui est aussi très, très accessible dans la mesure où il n'y a aucune barrière linguistique, puisque tous les spectacles, d'où qu'ils viennent, sont surtitrés en français et en anglais. Et c'est vraiment des expériences singulières qu'on propose. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des habitudes d'aller dans les salles de spectacle pour recevoir le festival dans sa plénitude.
Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de premières fois des gens qui... vous en êtes à votre 19e édition, mais est-ce que vous êtes là depuis 4 ans à titre de co-directrice artistique, puis ensuite co-directrice générale?
Oui.
Mais est-ce que vous croisez des gens qui vous disent c'est la première fois que je viens, puis c'est une super expérience? Est-ce qu'il y a beaucoup de premières fois?
Je pense que oui, j'ai pas de statistiques exactes là-dessus, mais j'essaie évidemment d'amener mes amis hors théâtre à venir avec moi, à m'accompagner. Donc là, j'ai beaucoup de retours très enthousiastes.
Ouais.
Et il faut savoir aussi que le festival est traversé par plusieurs centaines de jeunes qui viennent des cégeps, qui viennent des écoles secondaires, qui viennent des universités.
Dans le camp de sortie scolaire?
Exact, il y a des sorties scolaires, mais il y a aussi d'autres groupes de jeunes professionnels ou de cours universitaires qui viennent au FTA. Et donc là, on a énormément de personnes qui viennent pour la première fois et qui deviennent effectivement accros au festival. Il faut savoir que dans les sorties scolaires, maintenant, les profs qui amènent leur groupe au festival, souvent, ce sont des personnes qui, elles-mêmes, en tant que jeunes, ont été amenées par un prof.
Ah oui, c'est comme ça, la transmission.
C'est ça,
oui.
C'est très beau.
Et il y a combien de pays qui sont représentés au festival de cette année?
Alors cette année, je pense qu'on a des artistes qui proviennent de 23 pays différents. Donc la moitié du programme, comme vous savez, est international, mais l'autre moitié de la programmation, ce sont des artistes d'ici.
Montréal,
mettons,
Québec.
Canada aussi.
Ouais.
Et donc les spectacles invités internationaux circulent déjà dans le monde, sont en tournée, puis viennent à Montréal déjà créés, alors que les spectacles d'ici sont souvent des créations. Donc, véritablement des premières, des spectacles que vous pouvez voir pour la première fois ici au FTA.
Et comment vous les dénichez, ces fameux spectacles-là?
Alors, c'est tout un travail. Jessie Mill et moi, on voit chacune, je dirais, 300 spectacles par année.
600 à 2.
Oui, 600 à 2, très certainement 600 à 2. Et là, je ne vous parle même pas des nombreuses captations qu'on reçoit par courriel ou qu'on demande aux artistes en vue de planifier nos voyages, parce qu'il faut bien, avant de voir les spectacles, décider où on se déplace.
Oui. Et comme là, vous venez d'Australie, vous êtes encore un peu sur le décalage horaire, mais ça valait le détour.
C'est ça, absolument, ça valait le détour. En Australie, je suis allée voir un festival qui s'appelle Yeramboy, donc c'est un festival dédié aux artistes autochtones, comme on dirait aussi, Aboriginal Torres Strait Islander, comme on dirait en Australie. Donc, c'est à la fois un festival très spécialisé, mais qui me permet vraiment de voir des spectacles, de rencontrer des artistes que je rencontrerais nulle part ailleurs.
Mm-hmm. Alors, c'est comme ça, c'est votre vie finalement. Vous voyagez et vous allez voir des spectacles. C'est merveilleux.
C'est merveilleux, c'est un grand privilège, j'adore ça.
C'est exigeant aussi, j'imagine, parce que vous avez un regard professionnel, là. Vous n'allez pas là pour vous divertir. Oui, il y a du divertissement, j'imagine, puis plein d'autres choses, mais c'est aussi en fonction de construire une programmation que vous faites ces sorties-là.
Exactement, et donc il y a tout un travail de préparation que nous faisons, Jessie Mill et moi, afin d'identifier les artistes, les spectacles, les festivals qui nous intéressent, mais aussi de nous préparer à cette rencontre qui a lieu dans les salles de spectacle. Donc il y a tout un pan, je dirais, de recherche culturelle qui nous permet ensuite d'être dans les salles, dans un lieu on n'a pas fréquenté avant,
mm-hmm.
et de comprendre une réalité sociale sur place, de comprendre les codes culturels qui sont utilisés dans ces spectacles-là. Et c'est clair qu'on a aussi des angles morts, mais on essaie vraiment de s'éduquer en lisant, en dialoguant avec les artistes afin de bien pouvoir recevoir ces spectacles-là, puis ensuite éventuellement pouvoir les amener à Montréal et leur proposer un cadre adéquat ici au FTA.
Mais là, 600 spectacles, vous en retenez combien? Ça doit être crève-cœur faire ces choix-là.
C'est en effet crève-cœur, mais il faut savoir aussi que le festival se construit dans la durée. Donc, mettons que dans les 600, voilà, la grande majorité, on ne va pas les inviter tout de suite, mais ce sont des relations qui se tissent avec les artistes au fil du temps. Donc, je retiens ce que j'ai vu. Peut-être que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je vais voir un autre spectacle du même ou de la même artiste et ça va me permettre de mieux comprendre sa démarche. Donc, ce sont des conversations vraiment dans la durée. Il ne faut pas se dire, parce qu'un festival n'est pas invité une année X, que cette collaboration ou que cette rencontre n'a servi à rien, au contraire.
Ouais. Et concernant les spectacles qui vont être présentés, qui sont des créations québécoises ou canadiennes, est-ce que ce sont des spectacles aussi que vous avez vus ou vous donnez quoi, la chance aux coureurs?
Donc, les créations qui ont lieu dans le festival, donc les artistes d'ici, on va dire, dans le sens un peu large, ce sont des artistes qu'on connaît vraiment assez bien. Jessie Mill un peu plus que moi parce que ça fait 4 ans seulement que je suis ici à Montréal, mais on assure vraiment une veille de ce qui se crée dans les communautés artistiques, tant en théâtre qu'en danse. Donc on voit aussi énormément de spectacles ici à Montréal pour justement que le jour où l'artiste se présente au bureau du FTA en nous disant « j'ai un nouveau projet, est-ce que ça peut vous intéresser ?» pour là être capable de parler de la démarche artistique, de comprendre les intentions de l'artiste à ce stade très, très, très préliminaire du projet et donc de décider si le festival va, oui ou non, coproduire ce spectacle, faire un investissement financier puis ensuite accompagner le spectacle jusqu'à sa création dans le festival.
Alors, vous parliez de danse contemporaine, de théâtre contemporain, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ce projet est retenu plutôt qu'un autre?
Mais je vous disais qu'il y a toujours comme deux dimensions. Il y a l'aspect purement esthétique, si vous voulez. Quelle forme est-ce que ça prend? Quel dispositif, comme on dit en jargon théâtral, quel dispositif est créé entre le public et l'œuvre? Et il y a mille formes différentes, évidemment. Le public peut être intégré à l'œuvre, il peut être assis autour. Ça peut être une forme très classique italienne où le public juste assis devant. Mais qu'est-ce que l'artiste choisit comme forme pour communiquer ses idées? Et ensuite, il y a l'aspect du contenu, si vous voulez, de l'histoire qui est racontée. Souvent, on essaie un peu d'être dans la complémentarité de ce qui se fait en saison ici à Montréal. Donc, qu'est-ce qui est exceptionnel? Qu'est-ce qui propose une expérience vraiment inédite, différente? Qu'est-ce qui nous fait vivre au niveau émotionnel, au niveau mental, philosophique? Qu'est-ce qui nous fait vivre différemment de ce qu'on voit normalement ici? Et c'est une des fonctions importantes du festival.
Est-ce que les pièces de théâtre sont aussi nombreuses que les spectacles de danse? Est-ce que c'est assez équilibré comme proposition?
C'est même très équilibré et nous avons...
Il y a une équité?
Il y a ce qu'on espère être une équité parce qu'il y a vraiment différents paramètres qu'il faut respecter. Il y a l'équité danse-théâtre, il y a l'équité internationale-nationale, il y a évidemment un cadre budgétaire, mais il y a aussi le fait qu'il faut mettre ces spectacles dans différentes salles. Et chaque spectacle que nous voyons ou que nous accompagnons dans sa création nécessite une salle particulière, une jauge X de 200, de 400, de 700, 800, 900 spectateurs par soirée. Il faut que les décors puissent fonctionner dans le théâtre en question. Donc, il y a plein de détails techniques et de production qu'il faut voir. Donc, on jongle vraiment avec ces différents paramètres-là et l'équité absolument est visée. Elle ne sera jamais absolument parfaite puisqu'il y a des spectacles aussi qui existent entre le danse et la théâtre qui sont interdisciplinaires, si vous voulez. Et donc, ça appartient un peu au spectateur, à la spectatrice de se dire, est-ce que c'est du théâtre, est-ce que c'est de la danse? C'est selon aussi les habitudes du public que le spectacle va tomber dans telle catégorie ou telle autre catégorie.
Alors, Martine Denwald, quels sont les spectacles à ne pas rater?
Il y en a tellement. Mais j'ai évidemment des coups de cœur, j'ai des spectacles à vous proposer aujourd'hui. Et je vais commencer par vous dire que même si la plupart des spectacles sont en salle et donc il faut acheter un billet et je vous encourage vivement à le faire, il y a aussi deux spectacles qui sont gratuits et dans l'espace public. Et ce sont deux spectacles de la compagnie Faso Danse Théâtre, une compagnie fondée par Serge-Aimé Koulibaly, qui est vraiment un des grands chorégraphes de notre temps. Serge-Aimé Koulibaly vient du Burkina Faso, mais partage sa vie entre sa ville natale et Bruxelles, où il a aussi installé sa compagnie de création. Et donc, il vient avec un grand spectacle qui s'appelle « C'est la vie » au Théâtre de Verdure.
Titre.
Oui, et le théâtre de Verdure, on a collaboré avec ce théâtre-là il y a longtemps. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas totalement nouveau, inédit. Mais c'est quand même la première fois depuis sa rénovation que l'FTA y est. Et le théâtre de Verdure nous fait même l'honneur de devancer son ouverture et d'ouvrir sa saison avec le Festival Transamérique, avec C'est la vie de Serge-Aimé Coulibaly.
Théâtre de Verdure au Parc La Fontaine.
Au Parc La Fontaine.
Gratuit.
Gratuit.
Ça ne prend pas de laisser passer. On se
non,
présente.
Non, non.
Et...
Vous vous présentez un peu à l'avance, je dirais, parce qu'on attend quand même beaucoup de monde.
Ouais. Oui, oui. OK. Sinon, autre coup de cœur.
Autre coup de cœur. Je vous disais qu'on fait du théâtre et on fait de la danse. Et donc, le théâtre, quand il vient de l'étranger, il est surtitré. Mais cette année, on a aussi une œuvre qui est du théâtre sans parole. Donc, il est vraiment extrêmement accessible, je dirais, de façon universelle.
Du mime?
Ce n'est pas du mime. Ce n'est pas du mime. C'est une forme de théâtre visuel, je dirais, qui travaille beaucoup avec les atmosphères, qui travaille avec des tableaux visuels, qui parle d'une expérience de deuil dans une famille, donc d'un père absent, d'un père décédé.
Tout ça sans mots.
Tout ça sans mots, avec notamment, donc, il y a le metteur en scène est présent lui-même sur scène, puisqu'il est aussi acteur, il s'appelle Mario Banucci. Le spectacle s'appelle Taverna Miresia. Et donc, il y a lui sur scène et il est entouré de différentes femmes qui peuvent prendre différents rôles dans la famille, et notamment une chanteuse grecque assez connue, Savina Yannatou, qui est déjà venue à Montréal pour donner des concerts et que les écouteurs connaissent peut-être.
Les donc, écouteurs, c'est cute.
Pardon, on dit pas
les
comme
auditeurs.
Ça. Les auditeurs.
Non, non, mais c'est charmant.
C'est pas ma langue maternelle, le français.
Franchement, je voulais pas vous reprendre.
Si, si, très bien.
Alors, c'est un spectacle qu'il faut voir, qui va être présenté où?
Taverna Miresia, c'est à Duceppe, en milieu
Duceppe,
du festival.
Okay. Il y a combien de salles en tout?
On travaille avec une quinzaine de salles chaque année, mais ça peut varier un tout petit peu. On est toujours à la Place des Arts, il y a comme certaines habitudes importantes du festival, mais après, c'est vraiment selon les spectacles aussi qu'on choisit les salles.
D'accord. Peut-être un autre coup de cœur?
Un autre coup de cœur, je vous dirais, c'est Shiraz. Là, c'est vraiment un spectacle de danse.
C'est pas du vin, là. On parle pas de vin ici.
Non, on parle de la ville en Iran, Shiraz.
Oui. D'accord.
C'est un chorégraphe iranien, Armin Hakmi, qui est installé en Allemagne. À Shiraz, il y a eu, avant la révolution islamique, il y a eu un festival qui s'appelait le Festival de Shiraz, qui avait lieu à Shiraz, puis à Persépolis, il me semble. Et c'est un festival extraordinaire dans la mesure où il était dédié à la rencontre entre ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, l'Orient et l'Occident. Et qui voulait justement remettre en question ces notions qu'il y ait une séparation distincte entre ces deux-là. Et qui voulait amener, qui a amené les grands metteurs en scène d'Europe tout autant que les créateurs, les créatrices d'Iran et du Moyen-Orient. Et donc, il remettait aussi en question l'idée qu'il y ait de l'art dit traditionnel et de l'art dit contemporain. Il voulait mélanger tout ça. Puis avec la révolution islamique, ce festival a cessé d'exister. C'était pas possible d'avoir ce genre de dialogue artistique. Et Armin Hakmi, le chorégraphe, maintenant fait une œuvre de danse en l'honneur de ce festival et en honneur aux idées qui étaient représentées par ce festival.
Êtes-vous plus théâtre ou plus danse, Martine Denvald?
C'est un peu une question piège, il me semble. Je vous avoue que dans ma formation, il y a eu plus de théâtre au niveau académique, mais au niveau pratique, il y a eu plus de danse, puisque j'ai fait du ballet, puis de la danse contemporaine, puis j'ai une pratique de danse sociale aussi assez importante dans ma vie.
Ah oui?
Et donc, vraiment, je me sens très chez moi et je me sens très proche des deux disciplines.
Ouais.
Et là, aujourd'hui, je vous dirais que je vois autant de danse que de théâtre depuis des années, sinon des décennies.
Le festival est vraiment fait pour vous. Vous êtes bien à titre de directrice générale et directrice artistique, co-directrice artistique et co-directrice générale. Alors, c'est vous qui écrivez, je pense, bien dans le programme. Nous savons bien que tout brûle et pourtant nous continuons à allumer des feux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit continuer à allumer les feux ou plutôt chercher à les éteindre?
Écoutez, c'était en référence à un spectacle spécifique, Pompière et pyromane du Bureau de la Paste, un spectacle créé au Théâtre du Trident à Québec que j'ai vu. Donc, j'ai vraiment découvert le travail de ces artistes-là. C'était la première fois aussi que j'allais au Théâtre du Trident. Et ce spectacle-là est basé sur l'essai de Martine Delvaux, qui s'appelle « Pompière et pyromane », qui est une sorte de forme d'essai épistolaire dirigé à sa fille, où elle réfléchit à ce que ça veut dire mettre un enfant au monde, dans ce monde qui est au bord de l'abîme. Quelle est la responsabilité que nous portons, notre génération? Puis comment est-ce que la prochaine génération reprend cette responsabilité? Et si je devais résumer cet essai en quelques mots, il s'agit vraiment d'identifier quels sont les feux qu'il faut éteindre et quels sont les feux qu'il faut allumer. Donc, il y a la crise climatique et le soin à apporter à la planète. Il y a beaucoup de feux qu'il faut éteindre. Mais après, qu'est-ce qui nous habite? Quel sens donnons-nous à nos vies?
Ce sont des feux à nourrir.
Exactement. Comment est-ce qu'on avance vers un avenir plus vivable? C'est là le feu qu'il faut nourrir et le festival essaie d'y contribuer.
Et bon, on parlait de feux qui peuvent être destructeurs. Vous avez un engagement écologique au festival. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
C'est vrai. Ça nous paraît à peu près impossible de ne pas en avoir. Donc, on a vraiment un portfolio très mixte, je vous dirais, où on remplit certaines normes, où le recyclage, la réutilisation, dans tous ces aspects. Donc, ça touche à la fois les déchets au quartier général du festival, mais aussi comment les productions de théâtre elles-mêmes peuvent recycler ou réutiliser des éléments de scénographie, de costumes, etc. On va même publier avec Ecoséno cette année un guide de la création artistique éco-responsable qui sera présenté dans le festival. Tout ça est imparfait. Et même si nous compensons tous les voyages des artistes, les voyages que fait la direction artistique pour voir des spectacles, nous savons bien que ce n'est pas suffisant et qu'il n'y a peut-être pas de façon pour un festival qui est dans l'artistique d'agir de façon suffisante au niveau écologique. Mais ça nous accompagne à tous les niveaux dans la réflexion et dans la pratique.
Et en terminant, Martine Denvald, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots le spectacle d'ouverture, Lacrima? Ça
oui.
me semble absolument beau. On en parle d'ailleurs dans la presse d'aujourd'hui.
C'est vrai, c'est vrai. Il y a une entrevue avec la metteuse en scène et autrice Caroline Nguyen qui a créé Lacrima. C'est un grand spectacle qui rassemble des voix de plusieurs continents autour de la confection d'une robe de mariage. Et donc, il faut savoir que cette robe de mariage est confectionnée à la fois par une maison de haute couture à Paris, les dentelières d'Alençon, donc des femmes qui travaillent un peu dans l'obscurité à une pratique extrêmement traditionnelle et peu connue, mais aussi des brodeurs de Mumbai en Inde, puisque les meilleures broderies se font par des hommes d'ailleurs et pas par des femmes, apparemment, à Mumbai en Inde. Donc, c'est une histoire qui rassemble des récits sur les rapports de dominance et de violence aussi à différents degrés. Donc, il y a tout ce côté géopolitique, comment est-ce que le labeur, je pense qu'on dit, la main-d'œuvre fonctionne à niveau, à échelle mondiale. Mais c'est aussi une histoire très, très personnelle. La maison de haute couture est dirigée par une famille. Et donc là, il y a des rapports hommes-femmes qui sont compliqués et qui sont déployés dans le spectacle. C'est très, très émotionnel. Et la virtuosité de spectacle réside vraiment dans l'utilisation à la fois de la vidéo et dans le théâtre pour raconter en même temps, de façon enchevêtrée, ces différents récits.
Un spectacle de quelques heures quand même, hein?
Presque 3 heures, mais je vous dirais que ça passe à toute allure et vous n'allez certainement pas regretter. C'est extrêmement émotionnel, c'est très, très, très touchant. Ça se regarde un peu comme une série télé,
ah,
je dirais,
wow,
au
ouais.
niveau suspense, au niveau engagement émotionnel.
Vous donnez vraiment envie, c'est au Théâtre du CEP. Et je termine pour vrai là, avec Gentle Unicorn qui sera présenté du 27 au 30 mai à l'édifice Wilder Espace Orange qui met en vedette Chiara Bersani.
Oui, Chiara Bersani, c'est une artiste italienne qui vient de Pontenure, assez connue, qui circule vraiment beaucoup, surtout en Europe, mais aussi un peu dans le monde entier, qui a reçu différents prix, qui n'est jamais venue à Montréal. C'est une pratique artistique exceptionnelle. Et le spectacle iconique qu'elle a créé il y a plusieurs années déjà s'appelle Gentle Unicorn. C'est un solo de danse, performance, je dirais, où on se trouve dans une salle presque en intimité avec l'artiste, de façon assez, assez rapprochée, je dirais. C'est une chorégraphie du mouvement, bien sûr, mais aussi des regards. Donc, il y a un échange assez intime avec le public qui se fait, une intimité qui est créée et qui met Chiara Bersani et son corps, qui est atypique, au centre de l'œuvre pour interroger comment nous nous voyons mutuellement et comment Chiara revendique que c'est elle-même qui est en position de pouvoir et que c'est elle qui définit comment nous la voyons.
Oui, ça sera à voir certainement. Vous parliez aussi tantôt, Martine, que les spectacles étaient en toutes les langues, même en langue des signes.
En effet, nous avons un spectacle Pompière et Pyromane dont je vous parlais avant, qui est entièrement traduit en langue des signes québécoise, puisqu'une interprète est intégrée au spectacle. Donc, ça fait vraiment partie de la proposition artistique. Puis, au niveau accessibilité, nous avons aussi une représentation de Lacrima, qui est audio-décrite. Donc, ça s'adresse aux personnes malvoyantes et non-voyantes.
Super. Alors, si on va voir encore plus de détails, vous avez été très généreux ce matin lors de cette entrevue qui est sur le point de se terminer. Mais est-ce que FTA.ca, ça fonctionne toujours?
Ça fonctionne extrêmement bien. Et il y a aussi les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Instagram, tout ça. Donc, les informations sont partout sur les réseaux et sur le web.
Mais on invite tout le monde à participer au Festival Transamérique qui s'ouvre le 22 mai. Et j'en parlais avec Martine Denvald, co-directrice générale et co-directrice artistique du FTA, du Festival Transamérique. Merci beaucoup, Martine, et bon festival.
Merci, Hélène.